Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. En Europe, les élections s'enchaînent et elles sont cruelles pour les sociaux-démocrates. En Allemagne, en France, en Autriche, plus récemment en Italie ou en Hongrie, les partis socialistes sortent de ces scrutins laminés et parfois marginalisés. Au fil du temps, un peu partout, la politique des gouvernements socialistes s'est muée en un social-libéralisme revendiqué, à un moment où la classe des précaires de la mondialisation s'est substituée à la traditionnelle classe ouvrière. Les sociaux-démocrates ont-ils perdu leur âme dans l'exercice du pouvoir? En tout cas, aujourd'hui, sur les 27 pays de l'Union européenne, seuls 5 sont dirigés par des sociaux-démocrates. Alors, le déclin de la social-démocratie est-il inéluctable? Bonjour Mathias Fekem.
Bonjour.
Vous avez été ministre et vous avez occupé différents postes dans les gouvernements de François Hollande. Le dernier, c'était ministre de l'Intérieur. Vous êtes présenté aux élections législatives et vous êtes l'illustration des difficultés du Parti Socialiste. Vous avez été battu.
Oui, absolument. Mais il y avait d'abord, je crois, c'était la fin d'un quinquennat et la volonté de donner à l'actuel président une majorité. Mais ensuite, bien sûr, ça doit nous interroger sur où en est la social-démocratie, sur le fond, sur les politiques menées, sur le diagnostic et,
bon, évidemment,
et sur l'avenir.
Vous êtes aujourd'hui conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et vous êtes, on va dire, un jeune qui compte dans ce nouveau parti socialiste que Olivier Faure est en train d'essayer de construire. On peut dire ça ?
Il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent et une des très bonnes nouvelles de ce congrès, même s'il y a beaucoup de difficultés, c'est l'arrivée massive de jeunes à des postes de responsabilité, y compris de beaucoup plus jeunes que moi, dans les fédérations comme au niveau national.
Giuliano D'Ampoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, essayiste, italien. Vous avez été le conseiller de Matteo Renzi. Vous avez vous aussi été candidat aux dernières élections en Italie. Vous aussi, hein, un peu comme Mathias Fekem, vous avez été battu. Vous avez été longtemps adjoint à la culture lorsque Matteo Renzi était le maire de Florence. Et vous avez écrit une biographie de Matteo Renzi, Le Florentin, paru chez Grasset. Fabien Scalona, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été dans un temps enseignant et vous êtes aujourd'hui journaliste à Mediapart et vous êtes un grand connaisseur de la gauche, de gouvernement, la social-démocratie et un peu de la gauche radicale.
C'est ça.
Et à Rome, nous rejoignons Ernst Hillebrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du bureau de la fondation Friedrich Ebert en Italie. Merci d'être en ligne de la capitale italienne. Un mot sur cette fondation Friedrich Ebert, quelle est-elle?
C'est la fondation politique du Parti social-démocrate. Elle existe depuis 1929, je crois, et nous coopérons avec des structures partenaires dans pas mal de pays. Nous avons plus ou moins une centaine d'offices et de bureaux dans toutes les parts du monde.
C'est important, en effet. Fabien Scalona, alors, si les difficultés de la social-démocratie apparaissent le grand jour depuis, on va dire, 2-3 ans, notamment sur le plan électoral, le mal est beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond, notamment parce qu'il ne concerne pas un ou deux partis qui seraient en recul pour des raisons locales. Non, ce sont pratiquement tous les partis sociaux-démocrates européens qui sont en recul. Alors, on peut parler du PVDA aux Pays-Bas, du PSOE en Espagne, du PASOK en Grèce ou du SPE en Autriche. Depuis quand situez-vous ce désamour entre les électeurs, les citoyens et les partis socialistes de gouvernement?
Vous avez plusieurs temps, c'est-à-dire que dans les vieux partis sociaux-démocrates, des démocraties consolidées d'Europe de l'Ouest, vous avez une tendance au déclin électoral qui était déjà visible depuis très longtemps, hein, qu'on avait repéré depuis la fin des années 70, le début des années 80, donc un phénomène d'érosion lente mais assez régulière et assez continue. Mais en revanche, pendant ce temps-là, non seulement ces partis restaient des grandes alternatives de gouvernement, parce que les conservateurs baissaient aussi, et puis surtout, vous aviez des relais en Europe du Sud, où les nouveaux partis socialistes dans les nouvelles démocraties étaient très hauts, très forts. Il s'est produit peu ou prou la même chose dans les pays qui se sont démocratisés dans l'Europe de l'Est. Et puis, ce qu'on observe depuis 2008-2010, c'est une généralisation du phénomène de crise électorale ou de déclin électoral. Donc, toutes les variantes géographiques et historiques de la social-démocratie sont frappées.
Et dernier point, ce qui fait l'originalité et le caractère très aigu de cette crise-là, c'est que en plus, c'est pas juste un phénomène d'érosion, c'est que certains partis subissent un véritable effondrement, c'est-à-dire qu'ils changent de statut. C'est ce qui arrive au PS en France, c'est-à-dire qu'il n'est plus la grande alternative de pouvoir, il a été rétrogradé. Et aux Pays-Bas, effectivement, c'est la même chose. Le premier cas ayant été le PASOK en Grèce, mais pendant quelques années, on savait pas trop s'il allait être suivi par d'autres partis. Mais là, effectivement, on voit les cas d'effondrement se multiplier.
Mathias Sekal, vous avez été ministre dans différents gouvernements de François Hollande, je l'ai dit. François Hollande n'a pas été en mesure de se représenter faute d'une trop grande impopularité. C'est un cas unique dans l'histoire de la Ve République. Et les socialistes ont été sanctionnés, 6% lors de l'élection présidentielle, 7% aux législatives qui ont suivi. Question toute simple, Mathias Sekal, comprenez-vous vraiment aujourd'hui ce qui s'est passé et qu'est-ce qui explique un pareil tsunami ?
Je pense qu'il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a des choses très conjoncturelles et des erreurs commises, dont d'ailleurs François Hollande indique un certain nombre d'aspects dans un livre qui sort ces jours-ci. Et puis, il y a l'aspect européen que Fabien Escalona vient de pointer. La social-démocratie, c'est quoi, historiquement ? C'est d'abord la capacité à établir des rapports de force favorables aux classes moyennes, aux salariés, si on veut aller vite, aux ouvriers, à ceux qui travaillent, dans l'entreprise, au niveau local, au Parlement, au niveau national, où se prennent les décisions. Et avec l'européanisation des problématiques, avec la mondialisation néolibérale en réalité, qui est menée depuis 20-30 ans, il y a une déconnexion complète entre les lieux du politique, les lieux où se prennent des décisions de politique publique, et la réalité des flux économiques, des flux d'investissement, des flux d'exportation et d'importation, de chaînes de valeur, comme on dit. Et donc, la social-démocratie est en crise, me semble-t-il, notamment parce qu'elle n'est plus parvenue dans tous les pays d'Europe, et même au-delà, à montrer en quoi mettre des sociaux-démocrates au pouvoir permettait de changer concrètement la réalité économique, le quotidien, à cause de cette déconnexion. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment réussit-on à revenir aux sources de la social-démocratie, c'est-à-dire le rapport de force. Si les gens perçoivent que la social-démocratie, finalement, c'est l'accommodement au néolibéralisme tel qu'il va aujourd'hui, l'accompagnement, dans ce cas-là, honnêtement, d'autres le feront mieux que nous et sont beaucoup plus qualifiés. Si, en revanche, nous parvenons au niveau européen, car c'est un enjeu européen, à réinventer cette capacité d'action et à établir des rapports de force, partir du réel, mais pour aller à l'idéal, alors les choses peuvent changer. Mais c'est un travail de longue haleine et qui suppose aussi de dépasser le raisonnement dans un seul pays et même des égoïsmes nationaux, une juxtaposition de débats politiques nationaux qui peuvent exister.
On va voir si c'est dans le domaine des choses possibles. Giuliano D'Ampoli, dans la débâcle du Parti démocrate italien, est-ce qu'il y a une spécificité locale, peut-être la personnalité de Matteo Renzi, qui explique là aussi cette difficulté du Parti démocrate et des sociaux-démocrates en Italie, qui était quand même dominant pendant plusieurs années?
Oui, il y a évidemment des spécificités locales. Bon, d'abord, le Parti démocrate a été au gouvernement pendant presque 5 ans, et donc il y avait évidemment une dynamique de ce que vous appelez sortez les sortants qui s'est produite en Italie par rapport à la gauche, qui se serait produite par rapport à un gouvernement de droite, comme ça a été le cas auparavant. Puis, il y a eu effectivement la personnalité de Matteo Renzi qui a un peu changé le terrain de la politique de la gauche en Italie. C'est une personnalité très forte. Il a essayé de mettre à point ce que personnellement j'ai appelé une sorte de populisme de gouvernement, c'est-à-dire effectivement un style de gouvernement qui faisait un peu appel à certains des mots d'ordre et des styles justement des mouvements plutôt populistes. Parce que le grand thème, et là je rejoins ce que disait à l'instant Mathias, c'est que le problème de la gauche en Italie, comme un peu partout, c'est que elle n'arrive plus à intercepter la rage des gens qui veulent le changement. Historiquement, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk qui l'a bien raconté, la gauche est un des endroits qui arrive à intercepter la rage qu'il y a à l'intérieur de la société pour demander du changement par rapport à ce qui existe. Et un peu partout, la gauche n'a plus réussi au cours des dernières années parce qu'elle a subi une mutation, elle s'est adaptée aux réalités du marché et ce dont on parlait à l'instant. Elle n'intercepte plus cette rage, qui aujourd'hui est plutôt interceptée par d'autres types de mouvements, ce qu'on appelle, de façon à mon avis pas tout à fait correcte, les mouvements populistes, et qui sont très présents en Italie depuis longtemps, parce que nous sommes vraiment une sorte de Silicon Valley, de la Silicon Valley du populisme, hein, un grand laboratoire populiste. Et donc, effectivement, la tentative de Renzi a été un peu celle d'adapter son style de faire de la politique à un certain populisme, ce que vous appelez le dégagisme en France, donc se libérer des anciennes élites politiques, imposer un style nouveau, plus rapide, plus direct, etc. Et tout ça, ça a marché pendant un certain temps, et puis, évidemment, après l'épreuve d'un long gouvernement, ça a marché moins bien.
Ernst Hillebrand, en septembre dernier, le SPD a réalisé le plus faible score de son histoire depuis la fin de la guerre. Est-ce que la participation à de grandes coalitions avec les conservateurs d'Angela Merkel explique cet échec, selon vous ?
Non, je crois pas. En réalité, je crois pour la défaite du SPD lors des dernières élections, ce sont des facteurs structurels qui ont joué, comme pour les autres social-démocraties en Europe, et aussi une combinaison de facteurs plutôt conjoncturels qui sont liés à une mauvaise campagne et qui étaient incapables de capter l'état émotionnel, disons, de la société allemande après la crise migratoire. Un candidat qui finalement s'est révélé d'être plutôt faible, une incapacité de poser ses propres propositions au cœur de la campagne électorale. Donc je crois une mix de facteurs structurels et conjoncturels qui expliquent ça, mais pas forcément la participation au gouvernement. Je crois c'est un prétexte ou une sorte d'expiratoire pour ne pas faire face aux problèmes qui sont beaucoup plus profonds qui est assez parti à résoudre. Mais je voulais dire quelque chose sur la situation en Italie. Je trouve ça intéressant que le collègue a parlé de la rage de changement que la gauche ne capte plus. Je crois que c'est le contraire qui est le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, on a plutôt une rage de préservation, que les couches populaires souhaitent la défense de l'acquis social, politique, culturel des sociétés de post-guerre qui aujourd'hui sont menacées par la globalisation et l'européisation. C'est pas une rage de changement, un rage de préservation de ce qu'on avait.
On va revenir évidemment, Ernst Hillebrand, à ces questions qui sont assez fondamentales. Mais avant de poursuivre, nous allons retrouver Thomas Massé, qui a tendu son micro dans les rues de Paris en demandant aux passants qu'il a rencontrés si la social-démocratie avait encore un avenir.
Je suis très triste de voir que les sociaux-démocrates partout en Europe sont en train de prendre le bouillon dans les élections. J'espère que c'est purement conjoncturel, mais je pense qu'économiquement, il y a eu une période assez difficile pour beaucoup de gens cet an dernier en Europe, qui a eu la crise des migrants. Du coup, ça a eu pour conséquence des crispations, certainement, dans les populations.
J'aurais tendance à dire que le déclin de la social-démocratie en ce moment, c'est lié un petit peu au fait que les gens, les États, les sociétés se replient un petit peu sur elles-mêmes, en lien avec des questions, les aspects migratoires. Je pense que ça pousse beaucoup les sociétés à se replier sur elles-mêmes. Je pense que aussi, il y a des aspects, notamment en France, qu'on voit, c'est que dans le domaine de la santé ou l'éducation, il y a des moyens de moins en moins importants qui sont fournis par l'État et que, du coup, l'État-providence, tout simplement, c'est une tendance qui est un petit peu en recul. Donc les gens voient cette réalité-là et ça fait reculer la social-démocratie à l'époque actuelle.
Il faut le voir comme un signe d'un temps, mais ça n'est pas du tout inéluctable. Il ne faut pas passer à côté, il faut comprendre ces signaux-là. En revanche, ce n'est pas l'obligation de passer par là, de revenir en arrière. Et là où l'Europe a un vrai rôle à jouer, entre autres, c'est d'être modérateur, d'accompagner, de comprendre et d'essayer de ramener à la raison les moutons égarés, entre guillemets, de la politique européenne.
Mathias Feckel, la situation est grave, n'est pas à désespérer. Alors c'est un micro-trottoir, c'est pas un sondage, mais enfin, quand vous écoutez ces propos, ils sont plutôt encourageants.
Oui, c'est très intéressant, ça montre d'abord, je crois que beaucoup de gens se sentent aujourd'hui orphelins et en réalité peu représentés, notamment la gauche social-démocrate. En fait, ce qui est demandé, c'est une chose assez simple. C'est d'avoir une économie de marché. Je crois que là-dessus, beaucoup de gens voient bien que c'est une option intéressante, mais une économie sociale de marché et une économie écologique de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 30 années où partout dans le monde, toutes les règles ont été abolies, en réalité, je veux pas être trop caricatural, mais on est allé vers de plus en plus une financiarisation et des logiques souvent purement spéculatives, les gens veulent le respect de règles. Et le rôle de la social-démocratie, c'est d'inventer des règles pour l'économie mondiale. Et dans une économie mondiale, il faut des règles mondiales, de la réciprocité dans le commerce, de la capacité à répondre immédiatement lorsqu'il y a du dumping, de la concurrence déloyale sur le niveau de protection sociale ou sur le niveau de pollution, avec notamment le non-respect de l'accord de Paris dans des pans entiers du monde. Bref, comment réussit-on à remettre ces règles au cœur de tout et à partir de là, d'aller de l'avant? Il me semble que c'est une des clés pour la renaissance de la social-démocratie en France, mais aussi ailleurs. Parce qu'encore une fois, la même question se pose en Allemagne, la même question sans doute, mutatis mutandis, se pose en Italie, se pose en Grande-Bretagne, se pose aux États-Unis, où vous voyez aussi la gauche complètement déchirée et traversée par ce type de débat. Donc c'est un débat européen et mondial, et il faut l'aborder en européen et en internationaliste.
Alors justement, il y a un européen, il est allemand, il s'appelle Kevin Kühnert. Il a 28 ans, il est le leader des jeunes socialistes allemands, on les appelle les Juso. Il a donné bien du fil à retordre à Martin Schulz, qui était le patron du SPD, en expliquant que la social-démocratie ne survivra que si elle reconnaît ses erreurs et retrouve sa capacité d'indignation. C'est ce que vous évoquiez, Giuliano D'Ampoli. Alors, l'erreur majeure pour Kevin Kühnert de Fabien Escalona, c'est que la social-démocratie a cédé au néolibéralisme, qui apporte toujours la même réponse, quelle que soit la question. La réponse, c'est le libre marché, toujours plus de liberté pour le marché.
Oui, bah,
c'est une bonne question qu'il se pose, c'est une bonne explication des difficultés des
sociaux
démocrates.
C'est une explication qu'il suggère, et de fait, enfin, ce que vous avez qualifié de social-libéralisme, on est un peu le seul en France à employer ce terme-là, mais effectivement, ça désigne bien cette adaptation finalement.
Ça veut dire qu'on a du mal à faire la différence entre la gauche et la droite.
Oui, voilà, cette adaptation à ce qu'on appelle un paradigme, alors c'est un mot un peu pompeux, mais au fond, ça veut dire une grille de lecture du monde et des modes d'action qui finalement finissent par rassembler toutes les élites. Et donc quand on parle de paradigme néolibéral, effectivement c'est un paradigme où le marché, la concurrence, la finance, comme l'a dit Matthias Fekel, deviennent centrales en fait dans le système économique, dans le jeu d'allocation des ressources. Et donc la social-démocratie s'est adaptée largement à ça, et donc plutôt, elle a subordonné un certain nombre d'objectifs qui étaient identitaires, de justice sociale, de redistribution, de sécurisation sociale, etc. Elle les a subordonnés, en fait, à son adaptation au néolibéralisme. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'artifices ou d'accommodements qui ont permis que cette subordination soit pas trop grave ou que les coûts électoraux de cette subordination soient contenus jusqu'aux années 2010. Mais ensuite, il s'est passé la crise de 2008, et j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est un moment charnière. Vous avez évoqué dans l'introduction de l'émission les précarisés de la mondialisation. Et pour moi, c'est vraiment très important, parce que autant les milieux populaires sont fragilisés depuis les années 80 et depuis justement le triomphe entre guillemets du néolibéralisme à l'échelle européenne, voire mondiale. Ceux-là, la crise, ils la connaissent. Il n'y a pas de souci, et les effets électoraux, on les voit depuis très longtemps, et ça nous amène plutôt soit à des abstentions massives, soit à des votes vers la droite, et notamment la droite radicale. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous avez des pans entiers des classes moyennes, et notamment des classes moyennes assez jeunes, ou des enfants des classes moyennes, des gens qui ressent à ma génération et à mon milieu social, à vrai dire, je le vois autour de moi, mais ça se voit dans des enquêtes.
C'est-à-dire une trentaine d'années.
Sociologue, voilà. Et qui fait qu'en fonction du niveau d'études que vous avez, eh bien, les perspectives de promotion sociale, les perspectives de logement, etc., ne suivent pas ou ne suivent plus comme avant. Et tout ça crée un décrochage parce que, pour le coup, ça faisait partie un peu du noyau électoral de la gauche ou du centre-gauche. Et c'est pour ça que vous avez, effectivement, des décrochages électoraux massifs, une insatisfaction vis-à-vis des partis de gouvernement sociaux-démocrates classiques, et que vous avez
une résurgence d'une gauche radicale assez assez neuve en réalité, qui apparaît comme une concurrence nouvelle à la social-démocratie, en plus de tout le reste des problèmes qui sont les enjeux migratoires qui favorisent pas la gauche en général.
Mais... Et dont on verra dans la deuxième partie, c'est la vocation à gouverner ou être simplement une force de contestation. Nous verrons ça dans la deuxième partie. Tout de suite, nous allons faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Europejskie.
Cruzymy on tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour au Carrefour de l'Europe, deuxième partie. En Europe, les élections s'enchaînent et elles sont cruelles pour les sociodémocrates. En Allemagne, en France, en Autriche, plus récemment en Italie ou en Hongrie, les partis socialistes sortent de ces scrutins laminés, parfois marginalisés. Au fil du temps, un peu partout, la politique des gouvernements socialistes s'est muée en un social-libéralisme revendiqué, à un moment où la classe des précaires de la mondialisation s'est substituée à la traditionnelle classe ouvrière. Les sociodémocrates ont-ils perdu leur âme dans l'exercice du pouvoir? En tout cas, aujourd'hui, sur les 27 pays de l'Union européenne, seuls 5 sont dirigés par des sociodémocrates. Alors le déclin de la social-démocratie est-il inéluctable? Je vous représente rapidement les invités qui nous ont rejoints. Mathias Fekl, ex-ministre de l'Intérieur sous François Hollande. Il est aujourd'hui conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et évidemment, il prendra toute sa place dans la rénovation du Parti Socialiste en France. Giuliano D'Ampoli, politologue, essayiste, conseiller de Matteo Renzi. Fabien Scolana, journaliste à Mediapart. Et en ligne de Rome, Ernst Hillebrand, directeur du bureau de la Fondation Friedrich Schubert en Italie. Alors, avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
S'il est vrai que les sociodémocrates sont en grande difficulté en Europe, il y a une exception, c'est le Royaume-Uni, le parti travailliste, avec à sa tête Jeremy Corbyn. Et les travaillistes ont tellement le vent en poupe qu'ils menacent même les conservateurs dans les bastions les plus huppés de Londres à l'occasion des prochaines élections locales.
Absolument. Londres, la rouge, titrée en une de son édition de la semaine dernière, The Spectator. Après le résultat surprise des élections législatives de juin 2017, qui avait vu les travaillistes gagner 30 sièges et priver Theresa May d'une majorité absolue à la Chambre des communes, l'hebdomadaire conservateur craint un raz-de-marée travailliste dans la capitale britannique. Concrètement, le 3 mai prochain, quelques 150 autorités locales à travers l'Angleterre vont être renouvelées, dont les 32 conseils d'arrondissement de la capitale. Pour donner une idée, actuellement, 20 conseils sont contrôlés par les travaillistes et 9 par les conservateurs. En fait, ce qui inquiète The Spectator, c'est que même les arrondissements les plus cossus de la capitale et acquis aux conservateurs ne sont plus imperdables. Le magazine raconte que les militants Tories, donc les conservateurs, qui jusqu'à présent n'avaient jamais eu besoin d'aller faire campagne dans ces quartiers, se retrouvent à devoir toquer aux portes pour s'assurer que les électeurs se rendront bien aux urnes. Car Londres, c'est un peu le laboratoire du corbynisme. Le chef du parti, qui a opéré une rupture avec l'époque de recentrage du parti sous Tony Blair et donné un sérieux coup de barre à gauche, est en effet député d'Islington, dans le nord de la ville, depuis 1983.
Alors Sacha, qu'est-ce qui explique ce succès des travaillistes ?
Eh bien, pour ce qui concerne l'élection de l'année dernière, le programme entré à gauche des travaillistes, qui promettait notamment la fin des frais d'inscription à l'université et la renationalisation de certains secteurs comme le rail, avait permis au Labour d'attirer un très grand nombre de jeunes fatigués par des années d'austérité imposées par les conservateurs. Et à Londres, l'effet devrait être le même, puisque, explique The Spectator, la moyenne d'âge y est de 36 ans. C'est la sixième ville, en fait, la plus jeune du Royaume-Uni. L'autre atout dans ces élections, c'est le maire Sadiq Khan. Élu il y a 2 ans à la tête de la municipalité de Londres, il est la preuve que quand les travaillistes sont aux affaires, le ciel ne nous tombe pas sur la tête, constate l'hebdomadaire. Lui-même n'étant pas un allié de la première heure de Jeremy Corbyn, il représente une sorte de caution pour les électeurs de l'aile droite du parti.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors Jeremy Corbyn, c'est un peu le côté old fashion, renationalisation des chemins de fer, de l'énergie, de l'eau et abolition des droits d'inscription à l'université. Le retour de l'État-providence, en quelque sorte, dont s'est éloigné le Royaume-Uni. Mathias Fekl, est-ce que l'avenir, c'est le passé ?
Je crois qu'il ne faut pas être caricatural comme ça, si je peux me permettre. C'est-à-dire que d'abord, il vient après les années Thatcher, dont le Royaume-Uni n'a toujours pas réparé l'ensemble des dégâts, et même après les années Blair, où vous avez le tout premier Blair, qui est plutôt pour remettre du service public, notamment à l'hôpital, y compris dans les transports, aider les mères célibataires qui galèrent, etc. Et puis ensuite, vous avez pour le coup la dérive complète vers l'alignement néolibéral en réalité. Et donc le Royaume-Uni est dans ça aujourd'hui. Et s'il y a une attente aussi forte de service public, c'est parce que cette société a été que les inégalités dans cette société se sont creusées de manière très importante et qu'elles sont figées. En plus.
Donc il y a une spécificité britannique qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Ce n'est pas par hasard si dans les deux grands pays occidentaux qui ont inventé le libéralisme, le Royaume-Uni et les États-Unis, aujourd'hui ce sont des profils comme Sanders d'une part et Corbyn d'autre part qui ont le vent en poupe. Ça dit beaucoup et si vous voulez, pour les autres social-démocraties en Europe, ça doit quand même nous interroger. C'est-à-dire comment est-ce qu'on remet le service public au cœur de tout, l'indignation mais aussi l'action concernant les inégalités, les injustices. Bon, et à force d'assister à des dérives, ben vous avez des retours de bâton qui sont exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Retours de balancier et de bâton.
Giuliano D'Ampoli, comment la situation se pose? Évidemment, là aussi, le Parti démocrate, il va falloir qu'il se réveille, qu'il se refonde, qu'il se réinvente. Quels sont les thèmes de réflexion aujourd'hui du Parti démocrate? Ou peut-être qu'il est encore assommé et encore cette phase de rénovation n'a pas encore commencé?
Je voulais revenir un instant sur la situation anglaise, parce qu'en réalité, le même débat, même si avec des tonalités différentes, c'est le même qui se pose un peu partout. J'ai un ami qui était ancien stratège de Blair et qui est un des peu d'entre eux aujourd'hui qui se sont convertis au corbynisme et qui aujourd'hui est un véritable supporter de Momentum. Et non pas par opportunisme, mais parce que il me disait, écoute, moi j'en avais marre face à tous ces jeunes enthousiastes qui viennent chez moi et me disaient, on va faire ça, on va changer le monde, on va faire un... d'être toujours le vieux monsieur qui leur disait, c'est pas possible.
Prudence.
Hein? Alors, ça, moi, je comprends. C'est-à-dire, effectivement, le pragmatisme de la gauche de marché, si vous voulez, de la gauche à la Blair, de la gauche à la Manuel Valls, de la gauche à la Matteo Renzi,
ou à la Schröder,
etc., qui part d'ailleurs peut-être du Mitterrand de 83. Je veux dire, bon, c'est une longue histoire. Ce pragmatisme-là a été et vient aujourd'hui considéré comme un synonyme de fatalisme, hein, par des gens qui demandent quelque chose de beaucoup plus transformatif. Et je comprends tout à fait cette exigence-là. Par contre, je suis très, franchement, très peu convaincu par les réponses que, par exemple, justement, au Royaume-Uni, quelqu'un comme Corbyn est en train de donner à cette exigence-là. Parce que là, par contre, en effet, c'est surtout des vieilles recettes qui donnent l'impression d'être recopiées des programmes des partis travaillistes des années 70, disons, ou 80. Et c'est d'ailleurs, dans le cas de Corbyn, un enthousiasme très relatif, ou même une certaine froideur pour l'intégration européenne, qui, à mon sens, en effet, est, par contre, le seul véhicule possible en Europe pour relancer quelque chose de nouveau au niveau approprié. On parlait des règles. La seule, à mon avis, action proprement de gauche ou un peu transformative qui a été menée au niveau européen au cours des dernières années, à mon avis, est celle de Margrethe Vestager, qui est la commissaire à la concurrence, qui a essayé dans son secteur d'imposer toute une série de règles, de contraintes, par exemple aux grands géants des GAFA et du numérique. Mais tout ça, on ne peut, et ça et beaucoup d'autres opérations ne peuvent être menées qu'au niveau européen. Et avec une vision rénovée de ce que l'Europe doit être. D'ailleurs, si la gauche et l'Europe sont en crise en même temps, d'une certaine façon, à mon avis, ce n'est pas par hasard. C'est parce que les deux requièrent un un niveau de volontarisme, de constructivisme, si vous voulez, politique, qui aujourd'hui ne se retrouve plus vraiment à l'intérieur de notre panorama politique. L'interrogation, je pense que nous la partageons tous. Mais sur les réponses à donner à cette interrogation, je pense qu'il y a encore énormément à travailler et relativement peu de réponses.
Les uns et les autres, vous avez souligné l'importance de réfléchir non pas au niveau national, mais au niveau européen. Ernst Hillebrand, est-ce que au SPD, dont vous êtes très proche par définition, cette réflexion est aussi prenante? Mathias Feckel l'a évoqué, Giunello Dampoli l'a évoqué. Est-ce que la sortie de crise de la social-démocratie passe par une refondation de la social-démocratie au niveau européen?
Évidemment, je crois que c'est ça qu'une grande partie, une majorité du SPD pense, qu'il faut trouver une sortie de cette crise par une sorte de reconstruction des capacités protectrices de l'État-nation traditionnel au niveau européen. La grande question, évidemment, c'est si ça peut marcher. Depuis ce moment, ça n'a pas encore très bien marché. La dégradation de la situation des couches populaires au niveau économique et social a été accompagnée de processus d'intégration européenne. Donc les gens sont de moins en moins convaincus, je crois, que ce soit vraiment capable possible d'avoir cette réconciliation de l'intégration européenne et de la reconstruction des niveaux de protection sociale et de participation politique qu'on avait connus dans l'après-guerre au niveau des États-nations traditionnels européens. Donc je crois que c'est une des grandes questions pour la social-démocratie, si cette promesse d'être capable de reconstruire ce niveau de protection peut vraiment être réalisé. Je suis plutôt sceptique pour cela.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Mathias Feckel, Giuliano Dampoli, Fabien Scalona et Ernst Hillebrand. Fabien Scalona, l'Europe qu'on a évoquée à plusieurs moments dans cette émission, elle est évidemment centrale dans la social-démocratie européenne. Alors si on est en France en 2005, ça a été évidemment un traumatisme pour les socialistes dont ils ne se sont pas toujours remis. Quand on voit aujourd'hui la gauche, quelle est la position de la gauche, des partis socialistes, de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la gauche, on peut évidemment s'interroger et on peut constater que c'est Emmanuel Macron qui a emporté la mise avec un programme très européen.
Par rapport à ça, moi je suis un peu comme Ernst Hillebrand, je suis assez sceptique aussi sur les chances de renouveau au niveau européen. Non pas que ce soit pas nécessaire, mais c'est extrêmement difficile parce que vous avez, si on part du principe que la social-démocratie retrouvera son originalité en faisant autre chose que de l'austérité et en essayant de retrouver un peu sa mission originale comme on le disait tout à l'heure, elle ne peut pas faire ses politiques clairement dans tout le carcan institutionnel, économique qu'il y a au niveau européen en ce moment. Et pour changer ce carcan-là, pour changer les règles du jeu, on en est à ce stade-là, il faudrait un alignement des planètes assez incroyable pour que ça se fasse de façon pacifique et tranquillement par des compromis. Donc il y a une vraie question, mais là qui est purement stratégique, c'est comment on change les règles du jeu. On est vraiment face à des questions institutionnelles qui ont des effets très concrets sur les politiques publiques qu'on peut faire au niveau européen et au niveau national. Et donc derrière ça, vous avez vraiment la question du conflit que vous êtes prêt à avoir en termes social, mais aussi en termes de nation. Parce que le deuxième point que je voulais quand même souligner, c'est que depuis la crise de 2008, j'insiste un peu sur ce côté charnière, c'est que vous avez la crise économique et puis après vous avez la crise, ou en tout cas la question migratoire qui surgit avec de nombreux pays. Et c'est très important parce que comme vous essayez d'avoir une réponse européenne, ça ne marche pas parce que ça met en choc, ça met en antagonisme des préférences nationales, collectives, historiques très enracinées sur des questions, la monnaie, la question des frontières qui sont spécifiquement nationales pour le coup. Et autant ces préférences pouvaient s'accommoder quand vous aviez pas les mêmes flux migratoires qui venaient des mêmes pays, quand vous aviez pas quand l'euro continuait à fonctionner peut-être de façon un peu artificielle avec des déséquilibres qui étaient un peu masqués. Mais au moment où toutes ces forces là sont libérées, toutes ces contradictions là sont libérées, eh bien à nouveau les préférences collectives nationales s'entrechoquent. Et là, ça devient
ça devient un vrai souci. Et c'est très compliqué pour les sociaux-démocrates qui restent quand même dans des espaces nationaux de s'entendre au niveau collectif.
Bah, surtout quand sur 27 pays, 22 sont à droite dans l'Union européenne.
Oui, mais c'est-à-dire que tous les partis sociaux-démocrates sont aussi inscrits dans des configurations nationales qui ont des préférences collectives que je ne veux pas réifier ou essentialiser, mais qui sont quand même enracinées dans le temps. Et juste un exemple sur la question migratoire, vous voyez bien qu'il y a des grosses différences entre beaucoup de sociaux-démocrates d'Europe de l'Est qui ont des positions très dures, très identitaires islamophobes, pour dire les choses clairement. Et puis à l'Ouest, où c'est pas toujours très brillant, mais vous avez quand même un degré d'ouverture en fait au multiculturalisme qui est quand même beaucoup plus fort.
Mathias Fjellgren, une des grandes difficultés des sociaux-démocrates, c'est quand même de répondre à la mondialisation à travers l'Europe éventuellement, et bien sûr. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Parti Socialiste a à dire à tous ces travailleurs précaires qui sont ubérisés, qui livrent des plateaux repas, qui transportent des passagers sans être salariés? Voilà, qu'est-ce que le Parti Socialiste français peut avoir à dire à ces nouveaux précaires de la mondialisation?
D'abord, encore une fois, le retour aux sources. La capacité à établir des rapports de force qui permettent ensuite concrètement d'obtenir des choses. Et cela, sans doute, en France comme ailleurs en Europe, a été beaucoup trop perdu de vue. Mais les décisions se prennent au niveau européen. Ce qui a été dit sur la politique de concurrence est absolument vrai. La taxation des GAFA, qui permet des rentrées de dizaines de milliards d'euros de rentrées fiscales pour reconstruire des services publics, reconstruire aussi des sécurisations de parcours professionnels, des fonds qui permettent de développer des territoires en difficulté. Tout ça, c'est un retour de la puissance publique. Et ce que nous devons construire, c'est ce retour de la puissance publique qui ensuite permettra de mieux accompagner les individus et de remettre des règles dans une économie complètement déréglée.
Et ainsi le monde, quand vous entendiez Mathias Fjellgren, est-ce que vous avez l'impression que ce que vient dire Mathias Fjellgren, c'est compatible avec la réflexion qui peut être celle du SPD aujourd'hui?
Oui, je suis absolument d'accord, je crois. Il y a quand même, quand vous regardez le programme électoral du SPD, il y a clairement une conviction qu'on doit tenter de réglementer l'espace économique qui est un peu pêché par un libéralisme exagéré et qu'on doit trouver des possibilités de taxer l'économie d'Internet, les grands géants de plateforme économie. Donc je crois qu'il y a pas mal de points qui correspondent absolument à ce qu'a dit Mathias Fjellgren. Personnellement, je ne crois pas que c'est forcément l'analyse correcte. Je crois Mathias a complètement raison de dire que c'est une relation, une question des rapports de force. Mais ce qui me manque un peu dans cette analyse est la question dans quelle mesure l'européisation, l'intégration européenne, la globalisation, le libre-échange, la liberté de circulation de la main-d'œuvre a justement contribué pour détériorer ce rapport de force entre le capital et les autres forces sociales. Je crois que cette analyse de fond, comment est-ce que les politiques exécutées les derniers 20 ans par la social-démocratie, qui inclut cette grande expérience néolibérale de l'intégration européenne, a contribué à détériorer cette relation de force, ce rapport de force traditionnel de nos sociétés? Et là, je trouve que c'est la plus grand vide dans l'analyse de la social-démocratie actuelle.
Alors, Julien de Napoli, dans ce rapport de force qu'évoque à l'instant Ernst Hillebrand, le rapport de force, il est plutôt aujourd'hui entre la gauche et la droite, ou au contraire entre les cosmopolites, ceux qui profitent de la mondialisation, et les traditionalistes, ceux qui restent, on va dire, par commodité dans leur village? Où se situe aujourd'hui le rapport de force, et comment se pose-t-on la question en Italie?
Écoutez, je pense que le clivage gauche-droite reste évidemment pertinent, parce qu'on peut quand même classer la majorité des forces politiques en Italie comme ailleurs sur la base de ce clivage, mais il est vrai que en Italie comme ailleurs, s'il est toujours pertinent, il n'est probablement plus le clivage central, c'est-à-dire que le système en Italie comme ailleurs est en train de se reconfigurer autour d'un clivage de nature différente qui recoupe d'une certaine façon l'ancien clivage gauche-droite, mais qui le redistribue aussi de façon très importante et qui en effet est plutôt un clivage ouverture-fermeture, ou si vous voulez, on peut utiliser aussi d'autres paramètres. Bobbio, un philosophe italien, Roberto Bobbio, distinguait la gauche de la droite en disant la gauche c'est plutôt l'égalité et la droite c'est plutôt la liberté. Bon, on peut accepter ou ne pas accepter cette classification, mais est-ce que aujourd'hui le débat politique en Italie et ailleurs, est-ce qu'il se fait vraiment autour de ces thèmes-là, ou est-ce qu'il ne se fait pas plutôt autour de thèmes justement de liberté, de sécurité, d'ouverture et de fermeture, ce qu'on a vu aux États-Unis, ce qu'on a vu dans une certaine mesure en France, ce qu'on a vu en Italie, là, au cours des dernières élections, c'est que, véritablement, le panorama politique a complètement explosé, et je ne sais pas s'il va rester, par exemple, en Italie, émietté comme c'est possible. Hein, c'est tout à fait possible que vous ayez en même temps des partis qui font plutôt référence à un clivage gauche-droite et d'autres qui sont tout à fait en dehors de ce schéma-là et qui essayent... Alors, je ne sais pas si on va avancer en Italie vers un nouveau bipolarisme avec un caractère un peu différent, où il y aurait par exemple la Ligue du Nord et le parti de Grillo qui sont les grands vainqueurs des dernières élections et qui ont beaucoup de points en commun, notamment sur les thèmes migratoires, sur des thèmes économiques, etc. Donc un pôle, si vous voulez, de
repli sur
de
soi.
Repli sur soi, et d'un autre côté un pôle plutôt libéral d'ouverture qui reprendrait l'ancienne gauche et d'autres, ou s'il y a quelque chose de différent qui va se passer. C'est aujourd'hui encore très difficile à prévoir.
Fabien Scolin, ce que vient d'expliquer Giulia Lulamponi, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un espace politique pour la social-démocratie, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, que évidemment, s'il y a toujours une pertinence entre l'opposition entre la gauche et la droite, elle n'est plus la seule.
Je pense qu'il y a un espace, mais ça sera plus la même social-démocratie. C'est-à-dire que les organisations social-démocrates, elles peuvent continuer à exister, mais à mon avis, elles n'auront de viabilité que si elles se reconfigurent, en fait. Mais comme elles se sont déjà reconfigurées par le passé, ça s'est passé dans les années 30, où déjà à l'époque, elles n'avaient pas de réponse à la crise, elles étaient larguées. Il y a eu des nouvelles configurations social-démocrates qui ont été trouvées, qui ont duré ensuite jusqu'aux années 70. Il y a un autre moment de réinvention à ce moment-là. Et là, on est dans un nouveau moment de ce que j'appelle une phase critique, où tout ça doit se réinventer pour perdurer. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, le statu quo ne peut pas perdurer, ou alors c'est la voie vers l'échec et vers l'effondrement. Et par rapport à votre question sur droite-gauche, en fait, droite-gauche, c'est une opposition dont le contenu est toujours à préciser de toute façon, et vous avez effectivement deux axes, en fait, mais qui peuvent très bien se lire sous le prisme du droite-gauche. Vous avez un axe entre guillemets culturel qui effectivement va opposer les identitaires avec ceux qui sont plus ouverts culturellement, le cosmopolitisme, comme vous le dites, et là effectivement il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça structure profondément le champ politique et le débat public. Macron a intérêt à ça, parce qu'il apparaîtra toujours comme l'anti-Le Pen et contre le team derrière lequel il faudra se mettre pour éviter Marine Le Pen. Elle-même a intérêt à ce match-là, même si elle est en difficulté en ce moment. Et puis, vous avez autre chose qui est vraie, qui structure moins le champ politique actuellement, mais qui a quand même un peu une base sociale, une réalité électorale. Celui qui oppose effectivement les partisans du marché du libéralisme, et puis d'un autre côté, pas seulement ceux qui sont pour la redistribution, pour la justice sociale, mais aussi, c'est de plus en plus connecté dans les enquêtes d'opinion, dans les valeurs de l'électorat, mais qui sont aussi antiproductivistes. Et donc vous avez une sorte de reformulation du vieux clivage de classe, du vieux clivage droite-gauche sur la question sociale. Vous avez une reformulation avec la question écologique qui vient s'intégrer dans tout ça, et qui pour l'instant effectivement structure plus le champ politique comme elle l'a fait par le passé, mais c'est une dimension qui est toujours latente, et le boulot de Mélenchon, de Hamon ou d'autres, ou de l'actuel PS, ça va être de réactiver cet axe de confrontation politique.
Mathias Fekl, vous allez avoir le mot de la fin. Pierre Mauroy disait en son temps que les socialistes se pensaient comme les héritiers de l'avenir. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? ou est-ce que, dans le meilleur des cas, ils auront cette capacité à rebondir et à s'insérer dans un monde qui change et dont ils n'ont pas forcément perçu tous les changements?
L'avenir est à construire, ça part d'abord d'un diagnostic absolument lucide et implacable qui doit être fait. Le livre de Fabien Escalona sur la reconversion partisane de la social-démocratie, je pense, fait partie des analyses qui y contribueront. Mais l'avenir est à construire. Et il doit l'être, encore une fois, à partir de ce diagnostic. Et moi, je suis d'accord avec ce que disait Ernst. Il faut partir de ce qui a été fait au cours des dernières années. La manière dont la mondialisation a tout changé. Et dont, y compris, certains renoncements de la social-démocratie ont favorisé. Donc, approche européenne, l'ancrage européen de nos pays et l'adhésion au projet européen me semble un préalable. Après,
et il y a beaucoup de choses à faire au PS à ce niveau-là.
Mais évidemment, il faut être clair là-dessus, parce que alors au PS, personne ne propose de sortir de l'Europe, mais à gauche, il y a quand même aussi des ambiguïtés là-dessus. L'ancrage européen de la France est absolument indispensable et me semble vraiment un marqueur très fort. Ensuite, il y a la réforme de l'Europe elle-même. Et moi, j'ai vu sur les sujets de commerce international, notamment, tout ce qui était à mener là-dessus, la bataille des règles, justement, la bataille de la réciprocité dans le commerce, la fin de la naïveté européenne sur ces sujets, avec beaucoup de progrès qui ont été faits, y compris au niveau européen, dans les États comme à la Commission européenne, pour que l'accord de Paris prévale systématiquement dans ce qu'on peut négocier, pour que nous soyons en mesure d'avoir une capacité de réponse rapide quand nous faisons l'objet d'agressions économiques caractérisées, qui peuvent venir de toutes parts. La manière dont nous devons intégrer l'égalité des normes sociales dans les règles commerciales, bref, tout est à réinventer. C'est une tâche qui, pour la social-démocratie française comme européenne, va prendre du temps, mais qui se fera, qui est enthousiasmante et qui est indispensable.
Merci, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier, avec Maria Fonso, Sacha Michel du Courrier International et la complicité de Thomas Massé. Sur la page de l'émission Des Infos sur nos invités, pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, RFI.fr, rubrique émission, ou les applis de RFI, notamment la petite dernière RFI Pure Radio, elle est gratuite, bien évidemment. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Paris, Rome, Berlin, Londres, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.